Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez. Chaque jour, j'ai une heure pour vous montrer que oui, la France bouge et que vous êtes les acteurs de ce changement. Aujourd'hui, gros plan sur le couteau, un secteur innovant qui sait allier tradition et modernité. Vous allez voir à 24 heures du coup d'envoi de Coutelia à Thiers. C'est à ceux qui changent les codes qu'on a décidé de s'intéresser aujourd'hui. Elle fêtera, elle, ses 100 ans l'année prochaine. Vous avez peut-être ses bocaux dans votre cuisine. Jean-Martin sent bon la Provence et c'est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis, un mois jour pour jour avant le bac, c'est l'heure de commencer à réviser. Et pourquoi pas avec Nomade Éducation. C'est la solution, c'est ça la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, comme chaque jour, vous avez la parole. Venez nous dire si vous êtes fan de couteaux, Anissa.
Oui, venez nous dire si vous choisissez des couteaux français, lesquels et pourquoi. Puis n'oubliez pas la tradition, quand on offre un couteau, on rend avec une pièce. Ça,
exactement.
C'est important. 39-21 pour venir témoigner sur Europe 1, c'est le standard, 50 centimes la minute. Et puis hashtag Europe 1, c'est les messages que l'on lit sur Twitter.
Et oui, effectivement, les messages, allez-y, hein, vous pouvez commencer à nous les envoyer dès à présent pour accueillir nos invités. À mes côtés, elle est là, c'est Elisabeth Assayag. Bonjour.
Bonjour Raphaël et bonjour à tous.
Et alors, on attend Nicolas Chaban,
oui,
qui a un petit retard, mais qui
mais
va nous rejoindre.
Mais c'est qui le patron ici?
C'est moi le patron, je vais le lui dire tout
lui
à l'heure.
Dire.
Bon, Coutelia, vous le savez, met en valeur le savoir-faire artisanal qui est une de nos forces en France. Dans chaque région, vous avez des couteliers qui travaillent le bois régional et dont la renommée a parfois traversé les frontières. Mais vous allez voir que certains ont aussi choisi de prendre un tournant, celui de l'innovation. Et c'est eux qui sont à l'honneur aujourd'hui. Bonjour Luc Foin.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous avez créé Coriolis. On est en 1995. Vous êtes avec un de vos copains, je crois. Et puis vous avez un coup de cœur pour la coutellerie, c'est ça?
C'est ça. Stéphane Legault est mon associé, un ami d'abord. Et puis, une rencontre à l'école de commerce de Clermont-Ferrand, une rencontre avec la coutellerie. Moi qui suis originaire de la région grenobloise, une envie d'élargir ces beaux produits de coutellerie et de l'apporter sur des nouveaux marchés comme les marchés de l'outdoor par exemple.
Alors Stéphane a travaillé, je crois, un temps pour une coutellerie. Et puis vous faites votre service militaire et vous découvrez au Pakistan la coutellerie là-bas?
Alors je la découvre en partie effectivement là-bas. Et puis, effectivement, on va avancer ensemble sur cette belle aventure qui est devenue Coriolis.
Oui, et puis plutôt que de chercher un travail, finalement, vous décidez de créer votre propre emploi. Vous commencez à imaginer des concepts un petit peu différents dès le départ?
On a 25 ans, on vient de sortir, on est diplômé et on a envie de prendre ce couteau et de le sortir un petit peu du marché dans lequel il est aujourd'hui, qui est celui uniquement des armuries coutelleries, et de l'emmener sur un marché plus vaste, qui est celui de l'outdoor.
Alors, ça commence avec Baladeo, hein, c'est ça. C'est quoi ces fameux produits d'outdoor? Des couteaux de randonnée?
Pas spécifiquement, puisque par définition, un couteau, c'est un produit qui sert en randonnée. Mais c'est plutôt l'envie d'installer ce produit-là en dehors des réseaux traditionnels de la coutellerie et de l'amener sur un marché beaucoup plus large. Dans un premier temps avec Baladeo, sur le marché de l'outdoor. Et puis, depuis 2014, avec Dijo, pour en faire un accessoire de mode et aller encore plus large sur des réseaux beaucoup plus vastes. Et par la même occasion, changer un petit peu le statut du couteau de poche, qui était un outil et dont on va essayer de faire un objet du quotidien, utile, désirable, et qui va plutôt être du registre de l'accessoire de mode.
Ouais, si j'ai commencé par parler de Baladeo, c'est parce que c'est aussi comme ça que naît Dijo, parce que vous faites dans ce premier projet des couteaux de 37 grammes, c'est ça?
C'est exact. Donc l'idée de Stéphane qui a dessiné ce couteau, c'était de mettre sur le marché un couteau qui soit ultra léger. Ultra léger, non pas de par sa taille ou de par les matériaux utilisés, mais de parce qu'il a été pensé en tant que tel, ce qui fait du sens effectivement pour les randonneurs et les alpinistes, plus le couteau est léger et plus on va pouvoir en profiter et l'avoir avec soi au quotidien.
Donc ça, c'est le point de départ et vous vous dites on va l'améliorer et on va surtout le transformer. Donc Dijo arrive avec un projet, celui de personnaliser véritablement le couteau. Alors je voudrais, pour ceux qui nous suivent sur Europe1.fr, qu'ils regardent les couteaux que vous fabriquez parce que vous nous en avez amené avec vous.
Ils sont là,
ils sont formidables et nous, on a testé évidemment, on est allé en fabriquer un aux couleurs de la France bouge. Mmh. Alors je l'ai avec moi, je vais l'ouvrir. Regardez, voilà, on a choisi la lame, on a choisi le motif, on a choisi le bois et puis on a pu graver ici sur le manche. La France bouge, c'est-à-dire le nom de l'émission. On l'a choisi ensemble et il nous a été livré. Ça a une valeur, en fait, parce qu'on peut véritablement s'approprier son couteau.
C'est exactement ce qu'on veut faire, créer de l'attachement, en faire un objet personnel, un objet qui raconte une histoire ou qui raconte un moment fort qu'on a pu vivre avec quelqu'un, et donc en faire un véritable objet personnel. Et donc cette notion de personnalisation va exprimer cet attachement ou cette déclaration qu'on va pouvoir faire à quelqu'un si on est dans le cadre d'un cadeau. Et c'est effectivement un élément fort de ce qu'on fait avec Guigio.
Elisabeth, comment se porte la coutellerie française?
Elle relève la tête, hein, ça va beaucoup mieux. Il y a eu une concurrence asiatique pendant des années et les couteliers se sont relancés par l'innovation, on le voit avec vous, par du moyen et haut de gamme. Aujourd'hui, la coutellerie française propose un large éventail de couteaux de région fabriqués par de grandes marques, mais aussi par des artisans couteliers. En 2006, déjà, ils se sont regroupés. Il y a une dizaine de couteliers qui s'étaient regroupés autour de la signature Esprit de Thiers, parce que c'est l'un des bassins hein, de la coutellerie. Chacune des régions possède son propre couteau. Et rien qu'à Thiers, justement, on y fabrique aujourd'hui 300 000 articles de coutellerie chaque jour. Et si l'on inclut les commerces de détail, la coutellerie thiernoise représente près de 900 emplois.
Luc Foin, vous, aujourd'hui, avec Didjo, notamment, vous êtes dans 43 pays, c'est ça?
C'est exact. 6 000 points de vente à peu près aujourd'hui, un bon millier en France. Donc effectivement, ce n'est pas uniquement un produit qui est disponible sur Internet, mais c'est également un produit qui va être distribué par plein de détaillants un peu partout en France, à l'étranger aussi. On est présent aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse, au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud.
Combien de couteaux vendus par année?
En 2018, alors c'est marrant, vous venez de citer le chiffre de 300 000 couteaux fabriqués par jour à Thiers. Donc nous, on en vend 300 000 par an. Aujourd'hui sur nos marchés et donc on est sur des croissances très fortes. On espère en vendre 400 000 cette année.
Et combien de salariés chez vous aujourd'hui?
Didjo, c'est 45 personnes. Voilà, on a beaucoup de recrutement en cours encore.
Justement, c'est ça, vous êtes 45 salariés et j'ai vu que vous étiez en pleine campagne de recrutement.
Alors effectivement, hier on faisait l'ouverture du journal de télévisé de France 2 qui annonçait des chiffres records.
Une telle croissance chez vous que vous cherchez de la main d'œuvre.
Et on cherche toujours de la main d'œuvre. On a actuellement 6 recrutements en cours. On cherche des graphistes, on cherche des comptables, on cherche des ADV et on cherche des gens en production également.
Est-ce que vous pourriez imaginer rapatrier la production, l'industrialisation de vos couteaux ici en France? Parce qu'il y a une grosse partie qui est faite en Chine, hein, c'est ça?
Exactement. Alors,
c'est parce qu'il fallait tirer les coûts.
70% de la valeur d'un couteau Didjo aujourd'hui est d'origine française. On fait appel à de la sous-traitance.
Et aujourd'hui, pour la lame?
Pour les lames, pour la découpe, en fait, pour des parties industrielles. Et donc aujourd'hui, ce sont des choses qui sont à l'étude. On aimerait bien se rapprocher, mais aujourd'hui, on n'a pas trouvé de sous-traitant qui soit capable d'absorber les volumes sur lesquels nous sommes. Et donc, c'est des investissements auxquels on pense et qui se feront certainement un jour.
En tout cas, si des sous-traitants nous écoutent et ont envie peut-être de venir vers vous, c'est peut-être le moment hein, de nous contacter, y compris au 3921 ou sur Twitter. Ils seront les bienvenus.
C'est très clair.
Il est 13h09.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
La coutellerie, c'est aussi une histoire de famille, mais chaque génération arrive avec ses nouveautés. C'est le cas pour Jean Dubost, qui existe depuis 1920. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 et aujourd'hui, nous découvrons la coutellerie française. Elle se renouvelle, cette coutellerie. Venez nous dire comment vous choisissez vos couteaux. Est-ce que vous avez des couteaux français? De quelle marque? 39-21 pour vos témoignages, vos réactions et vos questions. C'est le standard d'Europe 1 et hashtag Europe 1 pour Twitter.
Quand on est héritier d'une marque lancée par son arrière-grand-père, la tâche est lourde parce qu'il faut maintenir le savoir-faire, conserver la tradition et aussi savoir évoluer vers la modernité. C'est votre cas, Alexandre Dubaud, bonjour.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous sur Europe 1.
C'est moi qui vous remercie.
Votre aïeul a fondé en 1920 la marque Jean Dubaud, mais à l'origine, c'est ce que je disais, c'est votre arrière-grand-père qui fait démarrer l'aventure avec la coutellerie qui arrive dans la famille.
Voilà, tout à fait. En 1920, mon arrière-grand-père et arrière-grand-mère ont créé l'entreprise, la société. L'entreprise aura bientôt 100 ans l'année prochaine et nous sommes dans la région de Thiers, un petit village de montagne, de 700 habitants.
Visconti,
c'est ça.
Alors, l'atelier, à l'époque, il est tout petit. Il travaille surtout pour les autres.
Voilà, donc l'atelier est tout petit. Il travaille pour les autres, mais on travaille aussi pour des clients, puisque à l'heure actuelle, on travaille sur les 100 ans de notre entreprise et on a retrouvé des écrits de 1945-48, 48, où nous travaillons déjà avec le BHV, Bazar d'Hôtel de Ville, où on retrouvait des factures réalisées à la main. On a retrouvé des éléments vraiment chargés d'histoire et c'est vraiment formidable que l'aventure continue pour la marque Jean Dubos.
Alors, votre grand-père, on va dire, crée véritablement la marque, la lance, la commercialise, la fait connaître.
Voilà, la fait connaître, la fait connaître déjà en 1960, après la guerre, où on a commencé vraiment à commercialiser nos produits, bien évidemment en France, mais aussi à l'étranger. Mon grand-père a été dans les premiers à se déplacer aux États-Unis dans les années 60, pour vendre nos produits à travers le monde. Et on continue l'aventure.
Ouais, c'est lui qui lance l'industrialisation, qui va permettre effectivement à la marque de se faire connaître. Mais après, il y a votre père aussi qui arrive. Là, c'est encore autre chose. Parce que lui, il va apporter la couleur, qui est très à la mode dans les années 80.
Voilà, absolument. Donc, on a apporté la couleur. Auparavant, les produits, coutellerie de table, couteau de cuisine, étaient essentiellement fabriqués avec des matières naturelles, du bois. Et après les années 60, les consommateurs en France ou à l'étranger souhaitaient...
Le plastique arrive et la couleur du coup
voilà,
aussi.
Voilà, de la couleur. Donc on a équipé notre entreprise pour pouvoir transformer la matière. Et donc on a été dans les premières entreprises à développer des manches couleurs. Je me souviens, on a toujours participé à des salons internationaux. Les clients, un petit peu en toute humilité, faisaient la queue sur le stand pour acheter des produits Jean Dubos avec des manches couleurs. Voilà.
Alors, chaque génération, finalement, arrive avec son innovation. Parce que vous, avez aussi apporté quelque chose. Et on a ici... Oui. Les deux gammes dont on va parler, qui sont vraiment vos nouveautés, vos créations. La 1920, qui revient... finalement à l'origine de ce qu'était le couteau quand la marque a été lancée.
Absolument.
Avec des manches en bois issues de forêts gérées. Hein,
voilà,
c'est ça.
Tout à fait. Donc notre gamme de couteaux de cuisine 1920, donc, ça est issu en termes de design de la forme originelle qui pouvait exister en 1920.
Et ils sont avec nous. Hein, si vous êtes avec nous sur europe1.fr, vous pouvez les découvrir.
Voilà. Et donc cette gamme-là, on a décidé de la fabriquer en manches en chêne et avec une certification PEFC, donc issue de forêts gérées. C'est-à-dire chaque manche est numérotée, puisque l'entreprise Jean Dubos est labellisée et certifiée PEFC. Et il y a un numéro, et on peut retrouver dans quelle forêt le bois a été coupé grâce à ce numéro-là. Donc, on est vraiment dans
la traçabilité.
Voilà, dans la traçabilité liée à la nature des produits naturels.
Et puis j'ai là dans ma main un couteau qui ressemble à un couteau en plastique, sauf que ça n'est pas du plastique.
Ça n'est pas du plastique.
C'est la gamme Line.
Voilà.
Y a des manches en couleur, donc vous avez gardé l'idée de votre père.
Tout à fait.
Mais vous mettez de l'amidon de maïs.
Voilà, donc c'est des manches qui sont fabriquées à base d'amidon de maïs. Et donc le produit, grâce à cette matière-là, est entièrement compostable et biodégradable. Donc c'est vraiment une réelle innovation, dans le sens où il a fallu donc déjà innover. Il y a une synergie entre la matière et la forme, puisque c'est une matière qui est complexe à produire. Et donc on a investi sur du matériel de production, dans de la recherche, du développement, avec nos collaborateurs chez Jean Dubos. Et donc, on est arrivé à fabriquer ce produit-là.
C'est plus cher, du coup ?
C'est un petit peu plus cher, de l'ordre de 15 à 20%. Donc, on avait commencé déjà en 2008 à vouloir transformer cette matière-là. Et pour la petite histoire, 2008, 2009, on commençait à parler d'écologie. Et l'écologie, il y a eu la crise mondiale et plus personne ne parlait d'écologie. Mais maintenant, il y a le comeback et donc on a continué à fabriquer ces produits-là et là on réinvestit sur ce genre de produits vraiment forts et qui ont vraiment une logique du respect de l'environnement et de la nature et ça chez Jean Dubos on trouve que c'est vraiment important.
Vous faites partie des marques connues, emblématiques de la coutellerie française, vous en avez trouvé d'autres évidemment Elisabeth,
on en a beaucoup, Layol,
un savoir-faire,
Tiers et au Pinel.
Oui.
Alors, pour le couteau Layol, alors lui, il date de 1829 sur le plateau de l'Aubrac. Mm-hmm. Magnifique couteau de poche, énorme succès. Vous avez Thiers qui en fabrique également depuis 1930. Excellente qualité de création artisanale. Et puis, au Pinel, qui est devenu un objet populaire, tellement populaire qu'il est entré en 1985. Il a eu une place au Victoria and Albert Museum. Ainsi qu'en 1989, c'est Opinel, avec le manche en bois, a même été référencé dans le Larousse. Et puis, le tiers, c'est une série de couteaux qui a été créée pour montrer et partager donc avec le public la passion des couteliers avec la coutellerie française. Et d'abord, le couteau tiers appartient à une confrérie. Chaque membre qui souhaite lancer une nouvelle version de ce couteau doit obtenir l'autorisation du Conseil de Jurande.
Alexandre, je ne vous ai pas demandé, vous faites travailler combien de personnes aujourd'hui ?
Alors, on fait travailler 60 collaborateurs.
Voilà. 60 collaborateurs et un chiffre d'affaires qui est autour de 15 millions, c'est
oui,
ça ?
Oui, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Avec une grosse part à l'international ?
Voilà, on fait environ 40% de notre chiffre d'affaires à l'export sur tous les continents et dans plus de 50 pays. Voilà, c'est une fierté.
C'est une fierté et vous pouvez effectivement être fier et on a de quoi être fier de nos savoir-faire français. On reste ensemble et on parle couteau aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h19.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on va vous proposer de fabriquer votre couteau vous-même. Oui, c'est possible grâce à Acolyte, le couteau de poche fait maison. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 et la France est l'emblème de la coutellerie française et cette coutellerie, elle se renouvelle. Ils sont là autour de la table pour vous présenter leurs produits aujourd'hui avec Raphaël Duchemin et vous pouvez vous aussi leur poser toutes vos questions. N'hésitez pas, c'est maintenant que ça se passe. 3921, c'est le standard d'Europe 1. Hashtag Europe 1 pour Twitter.
Et pour avoir un couteau qui sort de l'ordinaire, il faut s'adresser aux artisans. Ce sont des pièces uniques dont le prix est souvent relativement élevé. Et puis, il y a Acolyte. Bonjour Benjamin Legros.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le fondateur de cette marque qui nous permet en fait de fabriquer nous-mêmes notre couteau de poche. Racontez-moi comment vous est venue cette passion des couteaux. Je crois que c'est aussi un peu une histoire de famille.
Exactement, tout à fait. Donc en fait, mon père finalement m'a un peu transmis sa passion des couteaux. Et du coup, le projet Acolyte est né finalement à Noël 2016. À la suite d'un cadeau pour mon père justement et on s'est posé la question qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir et en fait d'un côté on sait qu'il aime les couteaux, de l'autre il est plutôt bricoleur et plutôt à l'aise avec ses mains et on s'est dit mais pourquoi pas à ce moment-là lui offrir un couteau en kit où il pourra finalement le personnaliser et le monter lui-même, donc on s'est renseigné et en fait on s'est rendu compte que finalement ce qui existait aujourd'hui sur internet était quand même très compliqué, très complexe. Et c'était destiné à des initiés et que finalement, ce n'était pas donné à tout le monde de pouvoir le faire.
Et vous trouvez, par contre, à la Maison du Japon, je crois, une première ébauche de ce que pourrait être un kit
tout à fait.
Pour
c'est
les
ça.
Couteaux.
Exactement. Alors en fait, en se baladant sur Paris à ce moment-là, je suis tombé sur la Maison du Japon et il y avait effectivement... Alors c'est un outil pour sculpter le bois en kit. Et là, en fait, je me suis dit...
Mais pourquoi pas essayer ?
Pourquoi pas le décliner justement sous forme d'un couteau pour justement venir créer et façonner soi-même son couteau à domicile en fait.
Oui, parce que votre idée, c'est vraiment de démocratiser l'accès au couteau et vous aviez l'ambition d'ouvrir un atelier à Paris. Finalement, vous avez dû renoncer parce que c'était un peu compliqué.
C'est ça, tout à fait. Donc en fait, j'ai fait une première formation à Thiers auprès d'un artisan. Mmh. Et en fait, de par cette formation et de par ces échanges hyper enrichissants d'ailleurs avec l'artisan, je me suis aperçu que l'idée de départ était finalement un peu trop ambitieuse et que finalement, ce qui était peut-être plus intéressant et beaucoup plus pertinent, si je voulais aussi m'adresser au plus largement possible et démocratiser le produit, c'était de proposer un kit. Et le vendre, évidemment, sur Internet pour toucher un maximum de personnes.
Alors, il est là, ce kit. Hein. On l'a avec nous, évidemment, sur europe1.fr. Regardez, c'est le kit Acolyte. À l'intérieur, je voudrais que Anissa, peut-être, ouvre et nous montre ce qu'il y a dedans. Voilà, on a les morceaux de bois, on a la lame. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Tout à fait. Alors, en fait, les morceaux de bois sont déjà, c'est important de le préciser, sont déjà préfaçonnés,
oui.
Préformés et prépercés. Ensuite, il y a une lame qui a été travaillée.
On va les choisir, ces morceaux de bois, quand on va sur votre site ?
Alors, dans un
site.
Premier temps, je travaille uniquement pour le moment. Donc, la société vient de se créer. Le projet est d'ailleurs en campagne de crowdfunding actuellement.
Oui.
Et en fait, pour le moment, il n'y a qu'un modèle. Donc, il y avait une forme imposée. Et ensuite, rapidement, ça va être un couteau modulable. Donc, je reviendrai, je pense, pendant l'explication. Donc là, effectivement, dans le kit, vous avez deux plaquettes de bois. Vous avez une lame qui est aiguisée, qui est déjà forgée par l'artisan. Et ensuite, vous avez un intercalaire qui permet du coup d'apporter de l'esthétisme et d'équilibrer le couteau. Et un outil surtout pour venir sculpter le bois. Donc ça, c'est un peu l'outil central qui permet du coup finalement à l'utilisateur de prendre cet outil et de venir façonner son manche.
Donc l'idée, c'est de se l'approprier, d'y mettre sa patte, d'assembler aussi, de comprendre comment on assemble un couteau.
Alors, il y a évidemment cette partie-là. En fait, l'idée première, c'est d'essayer d'intéresser les gens à la coutellerie, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que ça n'intéresse qu'une partie de la population. Et comment essayer d'intéresser des nouvelles personnes? C'est peut-être en essayant aussi de proposer un produit un peu sympathique, en essayant de mettre la main à la pâte et en créant soi-même son couteau. Et là, en fait, ce que je propose aussi, c'est une activité avec soi-même. C'est du temps pour soi, où on prend le temps justement de bien faire les choses et on prend le temps de créer son propre couteau, son acolyte finalement, qui nous accompagnera ensuite au quotidien.
Alors, notre coach est arrivé, il est là. C'est Nicolas Chaban, le fondateur de C'est qui le patron.
Tout est la faute du maire de Paris.
Bon, ah ben voilà, comme ça au moins on le sait. Qu'est-ce que vous pensez d'acolyte avec une campagne en pré-vente, hein, puisque c'est en cours.
En ce moment sur Kiss Bank.
Ce qui me parle, moi, c'est qu'on se réapproprie, c'est le plaisir de se réapproprier une consommation qu'on ressent différemment. Simplement une consommation qu'on prenait comme ça sans savoir ce qu'il y avait derrière. Là, on se fait son couteau. Moi, j'ai des amis qui adorent leur couteau. C'est une relation très particulière. Vous êtes sur Kiss Kiss Bank Bank. Je connais la vertu, c'est à la fois de faire connaître. Ça vous fait un peu aussi une petite étude de marché. Qu'est-ce que vous avez comme retour des gens à qui vous proposez, je sais, de préacheter? C'est ça, les couteaux, là, hein?
Exactement. Là, pour le moment, l'idée, c'est effectivement de... Donc, j'avais un premier objectif qui a d'ailleurs été atteint en moins de 24 heures. Donc ça s'est super bien passé.
En
moins de 24 heures, ouais, tout à fait. Et le second, d'ailleurs, en moins de 48 heures également.
Combien de couteaux ça fait, ça?
Donc là, on est sur une quantité assez restreinte, 70. Le deuxième palier était à 100. Et là, actuellement, il est à 150 pré-ventes.
Et donc, tout est made in France?
Tout est entièrement made in France. Donc je travaille avec deux artisans, effectivement. C'est important de le préciser, oui, parce qu'ils sont au cœur du projet. Et évidemment, sans eux, je n'en serais pas là aujourd'hui à parler de ce projet-là. Et donc je travaille avec un artisan basé à Thiers et un autre artisan basé en Normandie qui, lui, s'occupe du bois.
On reste ensemble, on continue à parler couteau sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on vous attend bien sûr 39-21 et Twitter, hashtag Europe 1, c'est la France qui bouge avec vous. A tout de suite.
La coutellerie française à l'honneur sur Europe 1. La France bouge jusqu'à 14h avec vos invités Raphaël Duchemin et nous découvrons effectivement depuis 13h que cette coutellerie française, elle se renouvelle et vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. N'hésitez pas, on lit vos messages là tout de suite sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et on vous écoute au 39-21, c'est le standard, 50 centimes la minute.
La France bouge avec notre coach Nicolas Chaban qui est arrivé, cofondateur de C'est qui le patron, Elisabeth Assayag qui m'accompagne chaque jour dans cette émission et puis nos invités, Luc Foin, cofondateur et co-gérant de Coriolis, qui commercialise notamment, dit Joe, des couteaux de poche personnalisables. Alexandre Dubeau, dirigeant de l'entreprise familiale Jean Dubeau, coutelier professionnel depuis 1920. Et Benjamin Legros, fondateur d'Acolyte, le couteau de poche à fabriquer et à assembler soi-même. C'est en ce moment en campagne de crowdfunding sur Kiss Kiss Bank Bank. On a déjà un premier message,
oui,
je crois, sur Twitter.
Ouais, on a un message de Marc qui vous demande à tous les trois, est-ce que les modèles les plus vendus en France sont les mêmes que ceux vendus à l'étranger?
Ah, très intéressante question. Question de Marc. Alors, qui veut nous répondre? Peut-être Luc et Alexandre?
Avec plaisir. Donc, effectivement, donc, on exporte aussi beaucoup, puisque 40% de notre chiffre d'affaires va être fait à l'export. Non, il y a des différences assez significatives. Donc, la particularité des couteaux Dijo étant d'être tatoués, on a même été amené à créer des collections spécifiques sur certains marchés, des motifs, des tatouages qui vont parler beaucoup plus à certaines personnes. Ne serait-ce que là, sur Paris, on vient de lancer un couteau avec une tour Eiffel. Aux États-Unis, on va plutôt travailler un drapeau américain. Ouais. On va travailler un aigle. Donc, il va y avoir des différences à ce niveau-là. Après, sur le produit en lui-même, il ne va pas y avoir de différence majeur en ce qui nous concerne, si ce n'est peut-être des fois quelques caractéristiques techniques. Par exemple, les Américains sont très friands de couteaux à ouverture une main, chose qui est beaucoup moins répandue en Europe, mais ça reste marginal.
Même question pour vous, Alexandre.
Voilà, donc, nous, on fabrique les produits qu'on commercialise. On les commercialise de la même façon, aussi bien en France qu'à l'étranger.
Alors, on a une chance. Mais vous sentez une appétence pour certains couteaux dans certains pays ou pas du tout?
C'est partout pareil. Et puis, bon, ce qu'aime le client étranger, le consommateur, c'est qu'ils veulent avoir un petit morceau de France, un produit fabriqué en France. Et ce qui nous aide beaucoup, c'est la gastronomie française est très connue à travers le monde. Et donc, comme on fabrique des couverts de table et des couteaux de cuisine, on bénéficie de cet élan et de cette image et de fabriquer des beaux couteaux. Voilà.
Nicolas?
Vraiment, j'ai une question. Est-ce que la réglementation est toujours la même? Vous vous rappelez cette histoire de la lame qui ne doit pas dépasser la largeur de la main? On a le droit d'avoir son couteau sur soi qu'on aime bien et se promener dans les rues?
C'est tout à fait possible.
Oui. Alors, ça évolue alors?
En fait, je pense que déjà l'histoire de la main, c'est un peu une légende, c'est un peu une légende urbaine. et malheureusement. Mais en fait, aujourd'hui, on a la possibilité, on a le droit, la loi le prévoit, On a le droit de transporter un couteau sur soi, simplement il ne faut pas qu'il soit directement accessible. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit dans un étui, exactement, ou dans un sac à dos, ou dans un sac. Il ne faut pas qu'il y ait une action directe pour le...
Dans les transports en commun aussi ?
Vous pouvez l'avoir dans les transports. Après, ce qui peut se passer, c'est aussi l'appréciation du policier qui peut aussi vous arrêter à ce moment-là et vous dire bah, « Écoutez, je suis désolé, vous êtes malheureusement en train de porter un couteau. »
Voilà. C'est toléré. En général, c'est laissé à l'appréciation de l'autorité qui vous contrôle.
Tout à fait.
Et donc, effectivement, il va falloir éviter d'avoir peut-être un couteau de poche sur soi quand on est dans le métro, dans un stade ou dans un bâtiment officiel. A fortiori, si on va faire une manifestation, ça c'est forcément déconseillé, voire totalement interdit. Mais si vous êtes dans un parc, en train de manger au restaurant, ou que vous avez un sac à dos pour prendre un billet d'avion et pour partir un peu loin, je ne pense pas qu'on vienne vous en faire le reproche.
D'où la difficulté de... On est des fabricants de couteaux et quand on voyage, voyage avec nos produits parce qu'on va les présenter à nos clients souvent. Donc, il faut faire très attention à les mettre en soute et pas les avoir avec soi, surtout quand on se déplace en avion, bien évidemment.
Moi, je voudrais savoir, Luc, vous avez commencé à réfléchir à une réelle personnalisation, c'est-à-dire je vous envoie mon dessin et vous me faites le couteau qui me correspond ou c'est quelque chose qui... va avoir un impact sur le prix et qui donc n'est pas possible aujourd'hui.
Alors clairement, c'est pas possible à l'unité aujourd'hui. On a trop de frais fixes pour le faire. C'est des choses qu'on propose à partir des toutes petites quantités, à partir de 20 pièces. Donc on va réserver plutôt à des associations, à des clubs. On a beaucoup de clubs de motards, des institutions militaires qui vont nous faire des séries limitées et donc qu'on va faire comme ça à la volée. Mais par contre, à l'unité aujourd'hui, c'est pas possible. En tout cas, sous la forme d'une gravure industrialisée.
Et je voudrais qu'on signale, parce que c'est Claude qui nous a appelé au 39-21, qu'il ne faut pas oublier les couteaux de Lontron en Dordogne. Je suppose que vous connaissez, vous qui êtes des spécialistes, qui fait toujours le même modèle avec un manche identique. C'est une preuve supplémentaire qu'il y a en France un véritable savoir-faire dont vous êtes les tenants. Merci d'avoir participé à cette émission et d'être venu nous parler couteaux aujourd'hui sur Europe 1.
Merci.
Il est 13h35.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Elle a été fondée en 1920 dans les Alpilles. Jean Martin est resté familial et c'est l'entreprise qui va bien, merci. A tout de suite.
Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Vous découvrez chaque jour des entreprises françaises qui va bien. Et aujourd'hui, il est temps de passer à table, Raphaël.
Et oui, une entreprise que, effectivement, vous connaissez. C'est Jean Martin, le nom de son fondateur. Bonjour Bernard Martin. Merci d'être avec nous. C'est votre grand-père qui l'a fondé en 1920. Je crois qu'il rentrait de la guerre à l'époque et il a dû changer de métier à son retour. Il s'est mis à faire des conserves d'olives. Je disais tout à l'heure, ça sent bon la Provence parce qu'on est à Mossane-les-Alpilles, au départ.
Ah oui. Merci d'avoir de m'inviter à parler de Jean Martin de la Provence.
Oui.
Jean Martin, effectivement, après la Grande Guerre, se met à piquer de l'olive noire de la Vallée des Baux, à la mettre avec du gros sel et la désamériser. Voilà, ça a été son premier produit. Et le deuxième produit, c'est de l'olive verte de la Vallée des Baux également. Là, il la casse et il la aromatise au fenouil.
Oh là là.
Voilà. Donc, c'est deux produits aujourd'hui qui sont toujours,
toujours pérennes, dans votre gamme.
Dans la Vallée des Baux. Et ils ont même obtenu, grâce à la troisième génération, un AOC, voilà, il y a une vingtaine d'années.
Alors, en 1956, il y a un gros problème, hein, puisque la région est frappée par le gel. Du coup, il va falloir partir à la recherche tout simplement de nouveaux produits, un petit peu partout dans le bassin méditerranéen. Et c'est comme ça, finalement, que vous allez un peu commencer à élargir votre production et votre gamme.
Oui, le gel des oliviers 1956, c'est beaucoup d'adversité pour la deuxième génération. Et en même temps, ça nous a ouvert... la Méditerranée, en termes d'approvisionnement d'olives, mais également en termes de recettes. Et nous, donc la troisième génération, en 1978, voilà, on crée notre première conserve, qui est le taboulé. Donc c'est un petit peu atypique pour un engagement provençal, mais on est les créateurs du taboulé en conserve.
Voilà. Oui, la troisième génération, c'est la vôtre. Hein.
Oui.
Et c'est celle aussi, finalement, de la diversification, parce que, effectivement, vous l'avez dit, avec votre frère, vous avez cette idée de taboulé en conserve, et puis vous allez continuer, vous n'arrêtez pas là, vous faites les ristes d'aubergines, les tapenades, tout ce qui vient du coin, sent bon la Provence, vous le mettez dans des bocaux.
Oui, le deuxième produit, c'est le caviar d'aubergine.
Ouais.
Également une inspiration méditerranéenne, mais dans laquelle on vient mettre de l'olive noire de la Vallée des Baux, la même que piquait notre grand-père. Donc, on a provincialisé un petit peu les recettes. Le premier taboulé était fait à l'huile d'olive de la vallée des Baux. Et donc petit à petit, on s'est inspiré de la Méditerranée, mais pour épanouir un petit peu la Provence et surtout réenchanter un peu l'univers de l'épicerie qui était à l'époque un petit peu triste.
Et alors ce qui est important de dire, je ne l'ai pas précisé jusqu'à maintenant, mais c'est que vous travaillez en circuit court. C'est-à-dire que vos aubergines, vos tomates, les produits qu'on retrouve dans vos bocaux, ben, pour 70% d'entre eux, ce sont des produits que vous allez chercher chez les producteurs du coin.
Oui, nous avons nous-mêmes, enfin, nos partenaires en termes d'approvisionnement, principalement sur l'aubergine, la courgette, la tomate. Et sur l'olive, on a nos partenaires qui sont historiques depuis presque de famille, qui nous suivent depuis 3 générations. Et puis nous-mêmes, on a planté 18 000 pieds d'oliviers.
La plus grande olivrée de France,
voilà,
en AOC-Provence.
On l'a fait en partenariat avec un moulin. Et ceci pour dire qu'on est engagé en Provence. Et donc, on veut avoir l'authenticité, mais aussi la légitimité de l'expression en Provence.
Que dit notre coach de l'aventure ?
Je suis le premier spectateur, je suis très heureux de tous vos invités, Raphaël, dans l'émission. Là, on a du marketing partout, on ne sait plus si les produits sont véritablement bons, on nous met une petite image dessus et on a l'impression que c'est le marketing qui nous vend l'histoire. Quand on regarde un peu ce que vous faites, on découvre, et ça vous me direz si vous l'avez fait tout seul, spontanément, si c'est récent, vous avez des produits sans colorants, sans conservateurs, sans OGM, sans additifs, sans arôme ajouté. Alors moi, je connais un peu ça de mon côté. Quand on pose la question, tout le monde veut les enlever. Vous les avez enlevés avant, finalement, qu'on mobilise les consommateurs. C'est un choix. Comment ça s'est fait, ce choix fort d'avoir des produits, finalement, sains ?
Depuis toujours.
C'est une très belle réponse. Vous voyez, vous n'avez pas subi la mode.
Depuis toujours, il n'y a que des légumes, que des olives, que des aromates. Et c'est tout. Voilà, donc il n'y a jamais eu aucun additif. Dans notre ratatouille, il y a les confites. Donc, les légumes sont parfois un petit peu confits. Ils sont comme ils sont, comme certainement nos grands-mères les sortaient de la casserole, comme à la maison. Et donc, voilà, c'est un engagement de cuisine authentique et en même temps de ne pas rajouter pour rendre beau un produit. Mais s'il est beau, qu'il n'est pas bon, ben, ce n'est pas Jean-Martin.
Ça n'est pas gagné. Combien de salariés aujourd'hui chez Jean-Martin ?
Nous sommes 50 personnes.
Et vous fêtez vos 100 ans l'année prochaine ?
Nous fêtons nos 100 ans l'année prochaine.
La quatrième génération va reprendre la suite ou pas ?
Si vous venez à la boutique à Mossane-les-Alpes, au cœur du village, se prépare, je pense, la quatrième génération, mais aussi avec des produits inédits, parce qu'il faut aussi donner de la force à une marque et innover. Je pense que Jean-Martin a passé toute sa vie à créer, à innover. Et le plaisir de l'innovation, c'est l'ADN, voilà, de Jean-Martin et certainement derrière de la Provence.
Et ça s'entend, ce plaisir. Merci. Dans votre voix. Merci d'être venu nous parler de cette belle entreprise qu'est Jean-Martin. C'est l'entreprise qui va bien aujourd'hui.
Il est 13h45.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Dans un mois, c'est le bac, c'est le moment de réviser. La solution, c'est Nomade Éducation dans un instant sur Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h tous les jours. Et tous les jours, juste avant 14h, Raphaël Duchemin, vous nous proposez la solution du jour. Et attention, les élèves de terminale ont leur solution.
Ah oui, parce que c'est bientôt le bac, mois, et donc les révisions qui vont avec. C'est le moment, il est temps de se poser les bonnes questions, de se fixer des objectifs. Elisabeth, la solution s'appelle peut-être Nomade Éducation.
Eh oui, parce que c'est le moment où l'on réfléchit aux matières qui demandent le plus de travail, celles sur lesquelles on a le plus de difficultés et celles qui ont les coefficients les plus importants. On se dit, tiens, il faut que je cartonne là parce que le coef est important. Et quand on a établi tout cela, il faut commencer à établir le fameux planning de révision en organisant des plages par matière. Alors face à cela, la solution Nomade Éducation qui propose un planning de révision personnalisé grâce au téléchargement de l'application. Il y a une fonction qui permet d'intégrer directement le planning de révision. On peut même programmer des alertes et être rappelé à l'ordre si on a fait des impasses. Bonjour Caroline Métro.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de Nomade Éducation, le numérique au service des révisions. Racontez-nous un petit peu comment ça vous est venu cette idée.
Bon, alors c'est tout simple, hein. Il suffit de regarder aujourd'hui les jeunes dans la rue. Je crois qu'ils ont tous au bout du bras un smartphone. Et d'où qu'ils viennent, c'est ça qui est génial. C'est quelque chose qui est très partagé, quel que soit le niveau social. Donc on s'est dit que c'était peut-être un moyen fantastique fantastique de réconcilier les jeunes avec l'école, de leur offrir un contenu gratuit sur smartphone à travers une application et de, oui, qui se réapproprie l'apprentissage sur un outil qui est le leur.
C'est ça, vous dites se réapproprier l'apprentissage parce que Nomade Éducation, c'est depuis les petites classes jusqu'à Bac plus 5. Là, en ce qui concerne les révisions du baccalauréat, il y a cette petite fonctionnalité en plus dans votre application.
Exactement. Donc, on couvre l'ensemble des matières. Et là, on est sur la dernière ligne droite, vous l'avez dit. Donc, on permet aux jeunes de fixer eux-mêmes leurs objectifs. Donc, on va les challenger un peu avec tu veux quoi, la mention, passer tout juste pour pas les stresser non plus. Ils vont fixer le temps de révision et les heures sur lesquelles ils souhaitent le faire chaque jour, télécharger l'appli dans le store et on va les motiver. On utilise en fait les codes du sport, de toutes les applis de sport qui existent, avec ces petites barres qui se... Alors, si vous fixez de faire un semi-marathon ou un marathon, on va vous dire qu'il faut vous entraîner tant de fois par semaine. Là, on va leur dire, c'est tout simple, t'as un stade, il y a ce que tu sais, ce que tu sais pas. Donc, ils vont commencer à faire un test là-dessus. On va leur dire 14-18, c'est génial, tu maîtrises. Quand t'es complètement à l'ouest. Donc, on va déjà ordonner leur révision, parce que souvent, il y a une perte de confiance surtout. Puis, il y a les parents, là. On est derrière, on les stresse encore
mais
plus.
Mais comment vous le savez, vous les testez?
Alors, eux, ils se testent à travers des quiz, voilà. Ils peuvent revoir le mini-cours, ils obtiennent un résultat. Face à cela, on va pouvoir créer des plannings de révision et leur permettre de voir où il faut mettre l'accent. Parce qu'un enfant qui a confiance et qui met son énergie où il faut, il réussit beaucoup mieux. Souvent, ils sont un peu perdus dans la dernière ligne droite. Donc, l'idée est vraiment de les rassurer et de les coacher par le mobile. C'est sans connexion et c'est gratuit. Donc, ils peuvent le faire n'importe où, n'importe quand, en dehors des cours.
Nicolas ?
J'ai vu aussi que c'était du collège au bac plus 5.
Primaire, avec des cahiers de vacances, mais qui là sont payants.
Ouais.
Et après collège, licence, 300 diplômes en fait. BTS, prépa, 10 licences en France et toute l'Afrique francophone.
C'est une base de données absolument incroyable. Et alors, il y a deux écoles. Moi, j'estime que parfois les parents, avec une forme de pression, alors ça peut être magnifique de suivre ses enfants. Mais de temps en temps, c'est pas mal d'avoir une autre personne qui te parle quand tu fais tes révisions. J'ai vu que vous tutoyez évidemment les élèves, hein. On est dans un rapport, fais ça. Comment les parents vivent ça? Le fait qu'à un moment donné, c'est quelqu'un d'autre, notamment au collège, qui s'occupe des révisions des enfants.
Alors, je pense qu'ils... Alors déjà, je ne suis pas sûre qu'ils soient tous informés, je vais être très honnête. Ah oui. Ce qui est génial avec l'outil, c'est qu'ils cherchent eux-mêmes dans le store, ils trouvent, ils tapent Bac S, TMG, BTS, prépa, etc. Donc je lui dis que c'est vraiment un choix. Je pense que parce que c'est un choix, c'est moins subi, donc ils progressent beaucoup plus vite. Et honnêtement, les parents, si vous leur demandez s'ils préfèrent que leurs enfants soient sur Bac L ou Fortnite, je pense que le choix est très vite fait.
Oui,
donc honnêtement,
vrai,
on a plutôt... Et on est hyper soutenus par le corps professoral, donc je leur dis merci. On a 300 profs qui bossent pour nous et qui nous préconisent partout.
Elisabeth ?
Alors, ça marche en France et je crois que ça marche aussi pour les étudiants étrangers. Ça marche
Afrique francophone. On a été naturellement sur l'Afrique francophone, langue commune, culture scolaire commune de par notre passé. Donc aujourd'hui, on couvre 28 pays d'Afrique francophone.
Et vous leur donnez des petits tuyaux. On a eu des fuites sur tel ou tel sujet qui
pourrait
tomber.
Alors on donne les sujets probables et on s'intéresse aussi beaucoup à l'actualité qui est au cœur des examens. Donc aujourd'hui est sorti dans l'appli toutes les questions d'Europe. Il y a 10 jours, on a fait des tests qui ont cartonné sur Notre-Dame de Paris. Donc l'idée aussi de faire ou la physique avec Star Wars,
en fonction
de se mettre sur leur code ou les séries, la philo avec Netflix qui a cartonné.
Est-ce que par exemple, quand ils font l'impasse sur des sujets, vous y revenez quand même, vous leur dites vous les testez quand même ou pas du tout?
Exactement, alors on leur met, alors c'est vrai qu'avec ce principe, on se rend compte qu'ils aiment bien réussir à avoir 90% partout, donc on va leur rappeler que là-dessus ils sont qu'à 30% et naturellement, de même, ils aiment aller au bout. Et ils révisent, ils vont vers les mini-cours s'ils n'ont pas maîtrisé. Il y a un tableau de bord comme une araignée qui leur permet de voir où ils en sont.
Dernière question, c'est gratuit?
Oui, c'est entièrement gratuit.
Génial.
Pas de freemium, entièrement gratuit pour tous. C'est là que je dis qu'il y a une vraie mission sociale chez Nomade Éducation.
Nomade Éducation qui est la solution aujourd'hui. Merci d'être venu.
Merci à vous d'avoir
parlé.
Reçu.
C'est dans un mois, préparez-vous, c'est important le bac. Merci à Nicolas.
Merci et pardon pour le retard.
D'avoir été notre coach aujourd'hui. Elisabeth, on se retrouve dès lundi. Nous parlerons des richesses de la mer. Ce sera la journée européenne de la mer.